Alors, Patrick, imagine-toi, des citoyens, on ne peut pas demander mieux, des citoyens et des citoyennes à Chambly, engagés au point de dire on veut assister aux séances, on veut participer à la vie politique de notre ville. Mm-hmm. Et puis, il n'y a pas assez de place parce que l'édifice n'est pas assez grand. Mm-hmm. On demande la webdiffusion. Il n'y en a pas question. Et il n'y a pas question de prendre un appareil photo. Il n'y a rien. Le photographe du Journal Montréal qui a montré le trône du maire, parce qu'il est surélevé, là, il l'a fait avec une caméra cachée.
Écoute, deux choses là-dessus. La première, l'Assemblée nationale du Québec diffuse ses débats, le Parlement canadien, la Knesset israélienne, la Chambre des communes britannique, l'Assemblée nationale française, le Sénat américain. Ça, ce sont juste quelques-unes des assemblées délibérantes qui diffusent leurs débats en direct, qui permettent de filmer, de photographier, etc. Qu'est-ce qui empêche Chambly et d'autres municipalités québécoises de le faire? De quoi le maire Denis Lavoie a-t-il peur? Je le sais pas. Ce que je sais, Paul, deuxième affaire, c'est que le ministère des Affaires municipales est clair. Il a statué là-dessus. Mm. Les villes doivent être ouvertes. Et dans une lettre envoyée à La Salle, l'arrondissement La Salle, où on a le même problème là, qui a été obtenu par le journaliste de Radio-Canada, Thomas Gerbet, en janvier, c'est clair. Les moyens technologiques contemporains ne sont pas en mesure d'influencer le décorum et le maintien de l'ordre. Donc, le ministère ajoutait là, que le pouvoir d'autoriser un citoyen à filmer, photographier ou enregistrer ne peut être laissé à la discrétion d'un élu ou d'un fonctionnaire. Donc, quand tu sais ça, que ça doit être permis, comment ça se fait que des villes rebelles comme Chambly, comme La Salle, on a vu d'autres, là, des villes comme ça, refusent, continuent à s'empêtrer dans l'obscurantisme et à dire aux journalistes et aux citoyens « Non, vous ne pouvez pas filmer, non, vous ne pouvez pas photographier, enregistrer, etc. » Il devrait y avoir une sanction, il devrait y avoir une amende. Mais toi et moi, on a souvent parlé, Paul, à ce micro, du fait que tout ce qui touche l'accès à l'information au Québec, on a beaucoup de progrès à faire là-dessus. Mm-hmm. On part souvent avec un préjugé favorable à l'opacité. Donc, puis des fois, on peut comprendre. Mais dans des cas comme ça, il n'y a rien qui justifie ça. Et la question à se poser, c'est pas pourquoi le maire Denis Lavoie de Chambly fait ça. Ça, regarde, il a décidé qu'il le faisait. La question, c'est pourquoi il ne paye pas un prix pour ça? Oui. Et ça, la réponse est oui. À Québec.
Alors, tu vois, ça nous permet de glisser vers oui. L'autre sujet important du jour, puisqu'on a débattu sur la possibilité aujourd'hui au Palais de justice de Québec de diffuser les vidéos oui. De l'attentat de la mosquée de Québec. Argument donné par la Couronne, c'est qu'on ne veut pas que ça nuise à ce qui pourrait être présenté en preuve oui. Dans le cadre des audiences sur la détermination de oui. Sa peine et les médias. Évidemment, par l'acte perpétré par le tueur Alexandre Bissonnette.
Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis journaliste. La presse est dans un consortium de médias là, qui veut forcer le tribunal à rendre ces images disponibles aux médias. Et je pense pas, tu sais, rassurez-vous, là, les médias vont pas se mettre à montrer des images épouvantables de gens en train de se faire tuer. Mais moi, je suis sympathique à l'argument du DPCP selon lequel il y a un risque de contagion. Si ces images-là sont diffusées, même en partie, j'ai écrit là-dessus en chronique, Paul, on en a parlé même à ton micro, il y a des études scientifiques qui montrent que ça peut intoxiquer des esprits faibles, des esprits sur le point de basculer, que de voir des images d'un fêlé armé dans une position de puissance. Il y a un réel effet, un risque d'effet de contagion. Donc là-dessus, je te dis, je ne suis pas sûr qu'on doit montrer ces images-là. Par contre, je pense que le plan B, le compromis, pourrait être bien simple et ça peut contribuer à démonter plein de théories du complot, notamment sur le faux, l'impossible deuxième tireur. Ben, tu permets aux médias, aux journalistes de visionner les images et chacun en fera un compte-rendu. Et bout à bout, on va avoir le même genre de compte-rendu, tu comprends? Tu peux pas... je comprends qu'on deal avec des conspirationnistes, mais si tu montres... Si tu permets de montrer ces images-là aux journalistes et qu'ils en font un compte-rendu oral ou écrit, on va tous avoir la même trame narrative.
comme le suggérait le procureur de la Couronne, Maître Thomas Jacques.
Bien, là-dessus, je dois te dire, je suis d'accord. D'habitude, je suis en faveur du plus de transparence possible, mais là, quand je fais la balance des inconvénients, comme on dit, et mon ami et collègue Fabrice de Pierrebourg n'est pas d'accord avec moi, lui, il pense qu'on devrait tout montrer ça pour démonter les théories du complot. Moi, je pense que dans la balance des inconvénients, tu risques plus, ici ou ailleurs, d'inciter quelqu'un à passer à l'acte en montrant ces images-là. Et ça, je pense que c'est un risque qu'on ne doit pas prendre.
Je me rappelle que ça avait pris beaucoup de temps avant qu'on voit les images du tireur à l'Assemblée nationale en 1984. Il y avait eu tout un débat là-dessus aussi. Et ça avait été dans la grande controverse. Et quand on a présenté ces images, écoute, on les a présentées en émission spéciale à heure de grande écoute dans la soirée. Parce que c'était tellement... comment je te dirais bien ça, inusité de présenter comme ça des images aussi crues, mais on les a présentées avec, sans qu'il n'y ait eu de montage.
Il y a un champ d'études scientifiques là-dessus, sur ce qu'on appelle le copycat effect, là, l'effet de réplique. Des gens qui pourraient être tentés de s'inspirer de quelqu'un pour faire ça. J'ai donné la parole en chronique à un psychiatre américain qui s'appelle Park Dietz. Et lui a interrogé tout plein de détraqués comme ça dans sa carrière. Et puis, ce qu'il a constaté, c'est que la plupart des fêlés à la Bissonnette ont des inspirations. Se sont inspirés d'autres tueurs du genre. Et c'est pas une bonne idée que de diffuser les images et de les diffuser dans une position de puissance. Et quand tu as un gun comme ça, en train de commettre ça, même si tu ne montres pas les images les plus tragiques, tu risques d'en inspirer. Et je te le répète, d'habitude, moi, je suis pour ce genre de transparence-là. Là-dessus, je pense que les médias, on a une réflexion à faire. Est-ce que de les nommer, de les montrer, est-ce que ça en influence d'autres? Poser la question, je trouve que c'est extrêmement inconfortable, puis ça va contre notre ADN de journaliste, de média, qui voulons tout montrer.
Mais en terminant, cette vidéo saisissante de Denis Lortie, alors qu'il divaguait complètement et qu'il tirait à la caméra, ça nous avait permis de découvrir un homme remarquable, le sergent d'armes René-Marc Jalbert, qui est mort en 1996 et qui, d'un calme olympien, avait réussi à justement faire cesser cet exercice effroyable de Denis Lortie. On va parler de Facebook un peu en terminant. Oui. Mark Zuckerberg, mais j'ai quelque chose à te faire entendre.
Vas-y.
Et c'est un échange qui est vraiment savoureux entre Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook, et Dick Durkin, qui est le sénateur qui lui a posé une question.
Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
No.
I think that might be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect?
Yes, Senator. I think everyone should have control over how their information is used.
Alors voilà, le sénateur lui demande où est-ce que vous avez couché hier, à quel hôtel? À quel hôtel, Monsieur Zuckerberg? Seriez-vous prêt à répondre à la question? Zuckerberg dit non. Ben, il dit voilà pourquoi vous êtes ici. C'est parce qu'on veut pas que toutes les informations soient rendues disponibles.
Mais c'est un exercice de reddition de compte qui est extrêmement intéressant. Hein? Quand tu vas témoigner au Congrès, tu te fais souvent talonné, comme on a vu Mark Zuckerberg se faire talonner. Moi, je trouve que les questions étaient très bonnes. Il y a des gens sur Twitter là, qui étaient pas de mon avis, mais il y a quelque chose de fantastique dans le fait qu'un capitaine d'entreprise comme ça doive venir s'asseoir et sous serment témoigner et se faire poser, à mon sens, Paul, de très bonnes questions. Ici, le sénateur Durbin en posait une très bonne, mais j'ai vu Zuckerberg se faire poser des questions, par exemple, sur tout le projet de règlement européen de protection des données personnelles qui va beaucoup plus loin que ce qu'on voit au Canada, qui est beaucoup plus en faveur dans ses ambitions de la vie privée et du contrôle des données par les usagers. Regarde, au moins, on commence à parler sérieusement de ce territoire qui est encore un Far West numérique où les usagers n'ont pas grand-chose à dire. Et aujourd'hui, une autre affaire, Paul, la façon dont les sénateurs américains posent des questions, on est loin de ce qu'on a pu voir dans certaines commissions parlementaires à l'Assemblée nationale. Ces gens-là savent poser des questions.
Et quand ils n'ont pas leur réponse, ils disent « Arrêtez, arrêtez, c'est pas la question que je vous ai posée, répondez.
» Et tu as remarqué, hein, ben c'est pas des questions qui durent 10 minutes avec 8 minutes de préambule.
Non.
Les questions sont claires, directes. Après ça, est-ce que ça va se traduire en pièces législatives? On verra. Mais Mark Zuckerberg a été obligé d'être sous serment, de donner des réponses et mentir au Congrès. C'est un acte criminel, by the way.
Et demain, c'est la Chambre des représentants. Merci, Patrick. À demain.